Alors, il est maintenant presque 5h45, on est pile à l'heure. Et c'est l'heure de notre chronique des apatrides anonymes. Et aujourd'hui, c'est Simon qui s'y colle. Salut Simon.
Eh oui, je m'y colle. Bonjour Salomé, bonjour Pauline,
alors,
bonjour tout le monde.
De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui?
Plusieurs sujets, vu qu'on est là un peu moins souvent cet été, les sujets relatifs à l'immigration, à la sécurité nationale s'accumulent. Alors, je vais essayer de passer le plus rapidement possible chacun de ces sujets. Donc, quelques brèves dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Par exemple, Donald Trump qui promet d'expulser tous les immigrants qu'il appelle illégaux. S'il est élu, un autre espèce d'obscur républicain qui promet de construire un mur entre le Canada et les États-Unis, ce qui serait probablement le plus long mur de l'histoire de l'humanité. Sinon, peut-être vous dire, les apatrides, on prépare un dossier, un bilan des années Harper en matière d'immigration, donc beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Ça risque d'être un assez gros travail, donc on va vous tenir au courant sous quelle forme ça va se faire, probablement un long texte qu'on enverra dans à différentes personnes. Avant de tomber dans des sujets plus en profondeur, peut-être j'aimerais suggérer un article qui est paru dans Le Devoir le samedi 22 août, qui s'appelle « Entre intégration et intolérance ». Ce sont des témoignages de personnes qui habitent à Sherbrooke, des personnes arabo-musulmanes surtout, qui racontent un peu leur expérience, comment ça se passe dans la vie de tous les jours, les démarches administratives, les difficultés auxquelles ces personnes font face. On y apprend que dans la région de Sherbrooke, seulement 20% des personnes immigrantes restent dans cette région. La plupart ensuite décident finalement d'aller à Montréal ou carrément de retourner dans leur pays d'origine. Donc le taux de rétention des immigrants est assez faible dans les différentes régions du Québec. Dans l'actualité très actuelle, finalement, évidemment, c'est la rentrée scolaire, donc toute la saga qui entoure les enfants de personnes non documentées qui se voient refuser l'accès à l'école, c'est un peu dramatique. On n'a pas le chiffre exact, mais on calcule que quelques milliers d'enfants n'ont pas pu avoir accès à l'école primaire ou secondaire gratuite et accessible. Cette année, la rentrée étant déjà entamée, on a quand même des inquiétudes. Il risque d'avoir une année qui est perdue pour ces enfants-là. Il y a eu un sit-in la semaine passée devant le siège de la commission scolaire Marguerite Bourgeois à Montréal, qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, est le territoire de commission scolaire le plus multiculturel au Québec, donc qui est finalement le territoire le plus affecté par ce non-accès à l'école. Un sit-in organisé par Éducation sans frontières, qui est finalement le pendant relatif à cette question-là de solidarité sans frontières. Il y a eu une genre d'opération de relations publiques de la part de la commission scolaire. Donc, un porte-parole est allé sur la page Facebook de SSF, ça va être plus simple comme ça, pour dire, écoutez, on aimerait ça corriger certains aspects. C'est pas vrai qu'on refuse les enfants. Donc, une sorte de détour verbieux un peu pour expliquer, non, on accepte tout le monde. Mais finalement, avouez que s'il n'y a pas une preuve de résidence officielle qui est fournie, et si les 6 ou 7 000 $ ne sont pas payés, ben non, les enfants ne sont pas acceptés. Donc, on se demande un peu à quoi ça a servi tout ce verbiage-là. Coup de théâtre, le gouvernement Couillard, qui n'est pas réputé pour être le plus progressiste, promet un amendement à la loi bientôt. On n'a pas d'échéancier clair qui pourrait permettre l'accès gratuit à tous les enfants, peu importe leur statut ou leur non-statut. On ne sait pas combien de semaines, combien de mois ça va prendre, et le gouvernement est un peu contraint de le faire. C'est une recommandation de l'ombudsman du gouvernement du Québec, Mme Raymonde Saint-Germain. Évidemment, ça va arriver trop tard pour l'année en cours, donc histoire quand même à suivre. Mais il serait quand même temps qu'on s'arrime à la plupart des provinces canadiennes et des États américains, et aussi de certains pays européens, qui offrent le service d'éducation gratuit complètement à tous les enfants de personnes non documentées. D'autres sujets aujourd'hui, je vais parler un peu d'Haïti. Un peu, si on a le temps, aller faire un tour en Europe, il y a des développements de ce côté-là. Et aussi, je vais rester au Canada pour le prochain sujet, retrait de la citoyenneté canadienne. Donc, quelque chose qui semble un peu surréaliste. Normalement, lorsqu'on est citoyen, on le demeure. Par contre, depuis quelques années, ça s'est pratiqué de plus en plus au Canada, et plus particulièrement dans la dernière année. Donc, il y a eu un genre de, pas de multiplication, mais il y a eu quand même plusieurs cas. Ça a été légiféré récemment. Donc, il y a un amendement à la loi qui, finalement, depuis 2 mois, permet et encadre cette pratique, donc la facilite. Il y a 2 associations qui contestent en cours, donc et la cause a été acceptée. Donc, ça va faire l'objet d'un d'un procès, finalement. Donc, l'Association des libertés civiles de Colombie-Britannique et l'Association canadienne des avocats pour les droits des réfugiés vont aller, finalement, défendre leurs arguments qui sont les suivants. Donc, que c'est une mesure qui est antidémocratique, qui est discriminatoire puisqu'elle s'adresse principalement aux néo-Canadiens et non aux Canadiens de naissance. On juge que c'est un prétexte supplémentaire pour restreindre l'accès à l'immigration. Ça peut causer des problèmes, par exemple, ça peut provoquer des renvois vers des pays qui sont jugés non sécuritaires. Ça vient un peu renforcer le principe de double peine. Donc, par exemple, pour des personnes qui ont été, qui ont reçu une condamnation dans un autre pays, que ce soit, par exemple, dans un pays qui est autoritaire ou qui est corrompu, donc des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques qui pourraient devoir souffrir de cette facilitation au retrait de la citoyenneté. On juge ça, je ne sais pas si je suis d'accord, j'ai pas vraiment d'opinion, mais que le système judiciaire est en place est assez solide pour juger d'éventuels crimes. Évidemment, il y a des risques pour les enfants des personnes qui sont visées. On verra qu'est-ce qui se passe. Je vais vous citer le ministre de l'Immigration, Chris Alexander, par rapport à ça, qui a été questionné. En fait, je cite un de ses porte-parole, « Les Canadiens appuient cette mesure ». Donc, on ne sait pas d'où sort cette affirmation. Il n'y a aucun sondage, il n'y a aucune étude claire qui confirme ça. Je poursuis. Notre gouvernement conservateur a renforcé la valeur de la citoyenneté canadienne plus qu'aucun gouvernement dans l'histoire du Canada. Donc, la citoyenneté vaut plus cher maintenant. Et comme on est en campagne électorale, il en rajoute un peu. Justin Trudeau et Thomas Mulcair ont dit qu'ils n'ont pas de problème à ce que des terroristes condamnés conservent la citoyenneté canadienne. Donc, rien de moins, on y va dans la nuance, comme d'habitude. Haïti. Donc, je préfère un lien avec le Canada, puisque le Canada déporte de plus en plus de personnes d'origine haïtienne suite à la fin du moratoire sur les expulsions des personnes haïtiennes. Et comme la plupart de ces personnes-là ont beaucoup de difficultés avec les démarches administratives à rassembler les papiers officiels qui ont été perdus dans le tremblement de terre et dans toutes leurs aventures pour venir jusqu'ici, ben là, on voit de plus en plus de personnes haïtiennes qui sont déportées. Par contre, je vais vous parler du gouvernement dominicain, donc qui partage la même île qu'Haïti. Énormément de personnes d'origine haïtienne habitent en République dominicaine. L'année passée, ou il y a 2 ans, je crois, le gouvernement dominicain avait annoncé qu'il voulait expulser à peu près toutes les personnes d'origine haïtienne de son territoire qui n'ont pas un statut officiel. Et ça inclut beaucoup de monde. C'est environ 250 000 personnes qui sont à risque. Donc, ça fait à peu près un an ou peut-être un peu plus qu'il y a des rapatriements qu'on appelle, donc des gens d'origine haïtienne qui retournent vers la frontière haïtienne. Il y en aurait eu 66 000 de manière dite volontaire par le gouvernement dominicain. J'ai lu comme statistique que 20 % des retours étaient forcés. Donc, si on fait un calcul rapide, il y a entre 15 et 20 000 personnes haïtiennes qui ont été arrêtées lors de raids et qui ont été expulsées de force. Il y a un problème supplémentaire qui se rajoute parce que ces personnes-là n'ont pas de statut en République dominicaine. Elles ont souvent été inscrites comme personnes en transit, même si elles sont nées en République dominicaine de parents d'origine haïtienne. Et elles n'ont pas, ces personnes-là, évidemment, de statut en Haïti non plus, puisque souvent, elles ne sont même jamais allées, ou ça fait des années qu'elles n'y ont pas mis les pieds. Et le gouvernement haïtien a annoncé qu'elle allait bloquer sa frontière à ces personnes-là. Donc, on se retrouve dans une situation assez inusitée d'apatrie, donc de personnes qui n'ont aucun statut. Donc, c'est pas comme au Canada ou aux États-Unis, des personnes qui sont dites non documentées, mais qui ont une citoyenneté d'un autre pays. Là, on se retrouve avec des personnes, des milliers de personnes qui n'ont aucun statut. Je ne sais pas comment on va gérer ça. Donc, il y a beaucoup de personnes visées qui se promènent de manière plutôt clandestine entre les deux territoires. Il y a des centaines de personnes qui se ramassent à la frontière. Il y a des camps qui sont érigés, qui ne savent plus où aller. Le gouvernement dominicain dément qu'il puisse y avoir des cas d'apatrie, mais bon, c'est faux. On sait que c'est assez documenté. Qu'est-ce qui va arriver avec ça, vraiment? On ne le sait pas. La commission des... j'ai oublié le nom. Le regroupement des États américains?
Je ne sais pas.
Enfin, bref, le regroupement, un genre d'Union européenne des États américains, si on veut, qui s'est emparé du sujet, qui veut amener à la table les représentants des différents gouvernements pour trouver une solution, parce que ça n'a absolument aucun sens actuellement. Et si on rajoute à tout ça le fait que le Canada déporte de plus en plus d'Haïtiens, donc ça va pas très bien, finalement. dans cette région du monde. Je ne sais pas si on peut en appeler au boycott des Québécois qui vont se faire bronzer en République dominicaine l'hiver, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose et que les autres États interviennent. Je pense qu'on n'a pas le choix. Donc, on va traverser l'océan, on va aller en Europe, où, bon, on le sait depuis de nombreux mois, la quantité de personnes migrantes qui traversaient la Méditerranée, qui continuent de traverser la Méditerranée, est à peu près constant et très, très élevé, le nombre de morts aussi. Par contre, il y a eu un déplacement géographique de cette migration, de cet exode même, on commence à utiliser le mot exode de plus en plus, par les routes terrestres. Avant de parler de cette route-là qui est de plus en plus empruntée, juste vous parler peut-être de quelques cas particuliers qui nous arrivent de certains médias, des cas qui sont relevés parce qu'évidemment tout ne l'est pas, mais il y a le cas de particulier de l'île de Kos, K-O-S, qui est une île grecque, qui est toute proche des côtes turques, qui est à, je crois, 6 km, quelque chose comme ça. Donc c'est une traversée qui est beaucoup empruntée. Et cette île-là est plus habituée au tourisme européen qu'aux personnes migrantes qui viennent du Proche-Orient ou de Syrie ou d'Irak, peu importe. Donc, on se retrouve avec des milliers de personnes dont le traitement a fait l'objet de critiques assez virulentes dernièrement. Par exemple, au début du mois d'août, on a relevé plus de 1000 personnes qui faisaient la file dans un stade pour s'enregistrer. Donc, des heures à attendre sous le soleil, sans accès à l'eau, sans toilettes, sans nourriture, après avoir été délogé de leur campement par la police. Médecins sans frontières, donc MSF, qui est allé de certaines critiques. Nous constatons une emphase complètement démesurée sur la sécurité, sans offrir à ces gens l'aide humanitaire dont ils ont besoin. Il y a seulement 2 toilettes, aucun accès à l'eau potable. Ils ont maintenant installé un boyau pour tous ces gens. La situation est vraiment dramatique. Une autre représentante de MSF a mentionné que des réfugiés entassés dans le stade se sont évanouis de faim ou de chaleur. Le gouvernement grec, interpellé par ça, a affrété un traversier contenant 2500 cabines qui est allé accoster à un quai à l'île de Kos. Donc, depuis le 16 août, il y a un traversier qui est là et qui attend les personnes réfugiées, donc au moins les personnes pourront avoir accès à de l'eau, des toilettes, de la nourriture, un lit même. Par contre, seuls les réfugiés qui arrivent de Syrie sont admis sur le bateau. Les autres personnes qui arrivent, par exemple, d'Afghanistan, d'Irak, de Somalie, d'Érythrée, sont considérées comme des immigrants économiques, même s'il y a la guerre dans ces pays-là. Donc, c'est tout juste si on les considère pas comme des touristes. Il me reste très, très peu de temps, donc... Ben, je voulais vous parler de la nouvelle route qui est de plus en plus empruntée, donc qui passe par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie. En Hongrie, on arrive en Union européenne, mais pour finalement, en général, aller plutôt vers l'Allemagne, la Suède, l'Angleterre, etc. Donc, toutes sortes d'anecdotes un peu déprimantes, genre un bateau, un canot gonflable dégonflé par des gardes-côtes grecs. Mais sinon, juste vous dire, ces pays-là sont quand même surpris, comme la Macédoine, l'Albanie, ne sont pas habitués à recevoir tant de personnes réfugiées qui marchent le long de leur route, qui veulent traverser leurs frontières. Donc, la situation est un peu improvisée. Donc, des fois, il y a des barrages de police, des fois, non. Certains pays, comme l'Albanie, la Macédoine, se disent « ben, on n'est pas la destination finale de ces gens-là, donc on bloque un peu la police, on envoie fesser un peu dans le tas, mais on laisse passer quand même des gens, donc on sait qu'ils vont poursuivre leur route ». Par contre, la Hongrie, la Bulgarie ont annoncé, sont en train de construire des murs actuellement. C'est la réponse, comme déplorait Médecins sans frontières tantôt. On met seulement la phase sur la sécurité, toutes les ressources là-dessus, et non sur l'aide dont ces gens-là pourraient avoir besoin. Je crois que je vais devoir terminer ici parce que le temps nous manque. Est-ce qu'il me reste quelques secondes?
Éventuellement, vas-y, quelques secondes.
Quelques secondes pour conclure là-dessus. Ben, je crois que... Non, je compléterai pas là-dessus. On va en faire un sujet de chronique complet. Par exemple, Marie-Ève sera là dans 2 semaines. Peut-être je pourrais lui suggérer de nous en parler davantage parce que c'est quand même un gros changement qui...
Oui, je pense que c'est quelque chose qui est très important et dont il faut évoquer, qui bien qu'on soit en Europe ou pas en Europe, qui doit concerner tout le monde.
Oui, et pour lequel il y aura des développements. Donc, le Canada n'admet pas plus de réfugiés actuellement. sa promesse d'accueillir 10 000 réfugiés syriens. Il est rendu à 1 000 actuellement. Ils ont célébré aujourd'hui le 40e anniversaire des Boat People vietnamiens. Le Canada en a accueilli, je crois, 150 000 dans les années 70-80. Donc, il serait peut-être temps que notre tradition de terre d'accueil pour les personnes réfugiées recommence.
Ben, en tout cas, merci beaucoup, Simon, pour toutes ces informations. Et donc, on retrouvera, comme tu l'as dit, bien vite, évidemment, les apatrides anonymes donc, dans 2 semaines.
C'est ça, avec Marie-Ève.
Oui, et pour même heure, avec, donc, pour une nouvelle chronique.